Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La perpétuité pour deux anciens élus rwandais impliqués dans le génocide de 1994. Les jurés de la cour d'assises de Paris ont suivi les réquisitions de l'avocat général dans ce journal le compte-rendu de Catherine Dutu. La loi travail au forceps, le texte est passé à l'Assemblée grâce au 49-3. Les députés opposés à la loi étaient trop peu nombreux pour déposer une motion de censure. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. Quand Nigel Farage parade au Parlement européen à Strasbourg, l'artisan du Brexit est venu expliquer qu'il n'entendait pas renoncer à son mandat d'eurodéputé. Nigel Farage, qui se défend de tourner le dos à l'Europe, nous l'écouterons. C'est la deuxième fois que la justice française condamne des Rwandais impliqués dans le génocide de 1994. La cour d'assises de Paris a condamné aujourd'hui à la réclusion criminelle à perpétuité deux anciens bourgmestres, Octavien Nguenzi et Tito Barahira, ont été reconnus coupables d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo dans l'est du Rwanda. Catherine Dutu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi pour France Culture ce procès historique et les jurés ont finalement suivi les réquisitions de l'avocat général.
Philippe Courroy avait estimé que les accusés avaient raté le rendez-vous avec l'humanité et le pardon en niant leur rôle de bourreau ou pire encore, de valet des bourreaux. L'avocat général avait donc requis la réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd'hui, lorsque la cour a prononcé cette même peine dans son verdict, silence étourdissant dans la salle. Le plus jeune des accusés, Octavien Nguenzi, 58 ans aujourd'hui, veste de costume noir sur chemise blanche, reste droit, il pince les lèvres, puis adresse un bref signe de la main à ses proches, venus en nombre pour le soutenir. Son co-accusé, Tito Barahira, moustache et cheveux grisonnants, est impassible dans son fauteuil bleu, plus confortable que le banc des accusés pour celui qui est de retour d'une dialyse. Retenue également frappante du côté des parties civiles, tout juste des mains qui se serrent discrètement, des sanglots rapidement étouffés. Cette réclusion criminelle à perpétuité, c'est une décision presque inespérée, confie Alain Gauthier, président du collectif des parties civiles pour le Rwanda, à l'origine de la plupart des enquêtes liées au génocide en France. Ce jugement montre qu'en France, on n'accepte plus l'impunité à l'égard des présumés génocidaires, poursuit les yeux rougis cet ancien prof de français de 67 ans. Et ce verdict est la plus lourde condamnation en France pour les crimes commis en 94 au Rwanda, après celle d'un ancien militaire, l'ex-capitaine Pascal Simbikangwa, condamné à 25 ans de réclusion pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité.
Catherine Dutu, merci. Toujours au chapitre judiciaire, le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui 7 djihadistes strasbourgeois qui étaient partis en Syrie entre décembre 2013 et avril 2014. Des peines de 6 à 9 ans ferme. La peine la plus lourde a été infligée à Karim Mohamed Agad, le frère de l'un des 3 kamikazes du Bataclan. La loi travail a donc franchi un nouvel obstacle parlementaire aujourd'hui. Pour la deuxième fois, l'Assemblée a adopté le texte de Myriam El Khomri sans en avoir discuté. Et pour cause, le gouvernement a de nouveau eu recours au 49-3. Et une nouvelle fois, les députés de gauche hostiles à la loi n'ont pas réussi à déposer une motion de censure, Stéphane Robert.
Oui, il fallait les signatures de 58 députés, comme lors du premier usage du 49-3 par le gouvernement au mois de mai. Cette motion de gauche en a recueilli seulement 56, au grand désespoir une nouvelle fois du député frondeur Pascal Cherki.
Il nous a manqué, je pense, un peu plus de détermination, un peu plus de courage d'un certain nombre de collègues. Voilà, c'est la réalité. Mais après, je ne veux pas parler en leur place. Ils expliqueront, ils diront pourquoi ils n'ont pas osé franchir ce Rubicon.
Mais pour le chef de file des socialistes frondeurs, le député de la Nièvre, Christian Paul, cette nouvelle tentative, même avortée, a quand même un mérite.
C'est un signal qui est adressé une nouvelle fois au président de la République. Et donc, c'est un combat qui va continuer. Nous réfléchissons d'ailleurs à une saisine du Conseil constitutionnel s'il y a, comme je le crois, des arguments juridiques sérieux concernant certains articles de la loi travail.
Quoi qu'il en soit, même si cette motion avait abouti, si on était arrivé à 58 signatures, ça n'aurait pas eu de conséquences puisque la droite ne l'aurait pas votée. Elle n'a aucun intérêt à le faire à quelques mois de la primaire. Raison pour laquelle le député socialiste de l'heure, François Loncle, estime que tous ces contestataires, et notamment les frondeurs, sont dans la posture.
Ils ont joué à se faire peur, ils ont joué à nous faire peur, mais ça marche pas, quoi. C'est du mauvais cirque. Ce sont des gens, soit par amertume, une sorte de rancœur. On voit aussi des gens qui jouent la défaite en 2017 et qui veulent d'ores et déjà se positionner. Ce n'est pas motivé par une ligne politique, c'est motivé par des postures personnelles et des gens qui ont une culture d'opposition, ne sont jamais arrivés à avoir une culture de gouvernement, et ça explique le résultat final.
De l'autre côté, on peut considérer que Manuel Valls, lui aussi, s'enferme dans la posture, une posture intransigeante qui a pour effet de diviser la famille socialiste. C'est ce que semblaient regretter cet après-midi de nombreux députés dits légitimistes. Le problème, expliquait l'un d'eux, c'est qu'on est entre le marteau et l'enclume et qu'on va le payer l'année prochaine dans les urnes.
Stéphane Robert, merci. La loi travail va maintenant repartir au Sénat, qu'il examinera en séance publique le 18 juillet prochain. La majorité sénatoriale de droite va très certainement rejeter le texte, mais l'Assemblée, à gauche, qui a le dernier mot, devrait l'adopter autour du 20 juillet prochain. Côté syndical, les organisations opposées au texte restent mobilisées malgré l'été. L'intersyndicale était réunie ce soir à Paris pour un meeting au gymnase Japy. L'occasion pour Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly, les patrons de la CGT et de Force Ouvrière, de marteler leur rejet de la loi travail, avec au passage une attaque en règle contre la CFDT favorable au texte. Le reportage de Raphaël Ebenstein.
Ambiance surchauffée ce soir au gymnase Japy, au moins 30 degrés sous les verrières. Environ 300 militants de la CGT, mais aussi de FO, de la FSU particulièrement remonté contre le gouvernement, contre François Hollande, dont le nom a été hué, tout comme celui de Pierre Gattaz, le président du BDF. Et Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de FO, n'a pas non plus hésité à s'en prendre à Laurent Berger, son homologue de la CFDT.
Permettez-moi une petite provocation ou taquinerie. Quand Laurent Berger sera Premier ministre, Manuel Valls pourra être candidat au secrétariat général de la CFDT. Et il faudra toujours des syndicats pour défendre les travailleurs, pour défendre leurs droits, pour défendre la dignité.
Un mot d'ordre, un cri repris par la foule à intervalles réguliers, retrait du projet de loi. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, lui a aussi été très applaudi en fustigeant les insultes, les provocations de la part notamment de Manuel Valls contre son syndicat. Il a surtout tenu à démentir un prétendu essoufflement de la mobilisation au lendemain de manifestations moins fournies que les précédentes. Des actions sont promises cet été et une nouvelle date pour une manifestation à la rentrée pourrait même être annoncée dès la fin de cette semaine.
Nigel Farage n'aime pas l'Union européenne, mais il continuera à siéger au Parlement européen. Le président démissionnaire du UKIP était à Strasbourg aujourd'hui pour tenter d'expliquer ce paradoxe. Nigel Farage a largement contribué à la victoire du Brexit au Royaume-Uni, mais il estime que son pays n'a pas pour autant tourné le dos à l'Europe. On écoute Nigel Farage.
Il faut qu'on explique aux jeunes Britanniques qu'on n'a pas quitté l'Europe, mais que nous laissons derrière nous une union politique défaillante et que l'on va continuer à partir en vacances, à participer à des échanges universitaires, que la vie continue. Le pire qui pourrait advenir, c'est qu'au bout des 2 années, il n'y ait pas eu de renégociation, que la chancelière allemande et le président français décident qu'ils sont prêts à risquer des centaines de milliers d'emplois dans leur pays. Si ces échanges diminuent, eh bien il y aura plus de risques pour eux que pour nous. Je m'attends à voir les constructeurs automobiles allemands et les producteurs de vin et de champagne français exercer une forte pression au cours des campagnes électorales dans leurs pays respectifs pour qu'un accord de simple bon sens soit conclu avec le Royaume-Uni. Je suis optimiste pour la situation économique de mon pays. Finalement, est-ce que j'aurais eu raison? Est-ce que j'aurais eu tort? En fait, tout ce qui compte, c'est qu'on a voté pour être une nation libre, indépendante et démocratique. Et je crois que ceci est bien plus important pour les électeurs que de dire que vous en sortirez mieux ou moins bien en étant en dehors de l'UE.
Voilà Nigel Farage en conférence de presse aujourd'hui au Parlement européen de Strasbourg. Traduction assurée par Quentin Dickinson. Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, une commission d'enquête officielle rendait un rapport accablant sur l'intervention militaire britannique en Irak en 2003. Selon ce rapport, le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, avait promis au président américain George Bush de le suivre quoi qu'il arrive. Pour la commission, c'était une erreur car toutes les options diplomatiques n'avaient pas été explorées. Réaction immédiate de Tony Blair, j'ai agi de bonne foi et la chute de Saddam Hussein a rendu le monde meilleur et plus sûr, affirme dans un communiqué l'ancien Premier ministre travailliste. L'actuel leader du Labour, Jeremy Corbyn, a présenté ses excuses au nom de son parti pour, je cite, la décision désastreuse de partir en guerre en Irak. On termine ce journal avec la météo. Demain, temps estival sur sur presque tout le pays. Seuls quelques nuages viendront perturber le ciel bleu. Près de la Manche et dans le sud-ouest, les températures maximales 20 à 29 degrés sur la moitié nord, 28 à 35 au sud. C'est sur les régions méditerranéennes qu'il fera le plus chaud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.